Mesdames et messieurs, chères clientes et clients, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette conférence téléphonique, moi aussi. Je m'appelle Sandro Merino, je suis chef Chief Investment Officer à la Basel Cantonal Bank et à la Banque Claire. Avant de commencer mon exposé, j'aimerais vous préciser différentes choses. Les fichiers audio ainsi que la transcription de cette conférence téléphonique et de celles réalisées à l'avenir seront publiés sur les sites internet de la Banque Claire, claire.ch. Vous trouverez par ailleurs des informations telles que les horaires d'ouverture actuels de nos succursales ainsi que les possibilités dont vous disposez pour contacter vos conseillers et conseillères par téléphone, par email ou désormais aussi par vidéo. N'hésitez pas à en parler directement avec eux. Aujourd'hui, j'aimerais surtout parler de l'évolution des marchés financiers et des répercussions économiques de la pandémie, y compris sur les mandats de gestion de fortune et solutions de placement proposées par la Banque Claire. En effet, mon équipe et moi-même assumons la responsabilité des stratégies de placement élaborées dans ce cadre. Je tiens tout d'abord à préciser que nous aussi, gérants de fortune de la Banque Claire, nous nous soucions avant tout de la santé de la population et exprimons toute notre compassion pour les victimes de cette épidémie. Nous avons le plus grand respect pour l'ensemble du personnel soignant et médical, ainsi que pour tous ceux qui donnent de leur personne avec courage dans le but de soulager les souffrances de leurs concitoyens. Par ailleurs, je suis fier que la Banque Claire participe elle aussi activement au programme de soutien cantonal et national en accordant des crédits aux petites et moyennes entreprises. Je passe maintenant à la discussion de l'évolution de la pandémie. La situation a considérablement évolué depuis notre conférence téléphonique du 26 mars, il y a une semaine seulement. Alors que l'Europe lutte depuis longtemps déjà contre les conséquences tragiques de l'épidémie, les États-Unis viennent seulement de réaliser, il y a quelques jours, qu'ils allaient eux aussi enregistrer de très nombreux décès. Même si la propagation du virus semble se ralentir en Italie et en Espagne, des mesures de confinement strictes resteront nécessaires pendant de nombreuses semaines pour stabiliser durablement la situation. À l'échelle mondiale, on devrait dépasser dans les prochains jours le million de personnes testées positives au coronavirus, alors qu'on en recensait que 500 000 environ il y a une semaine. Actuellement, c'est surtout aux États-Unis, nouvel épicentre de l'épidémie depuis quelques jours, que ce nombre augmente le plus rapidement. Les affirmations réitérées la semaine dernière encore par Donald Trump, selon lesquelles on devait observer un retour à la normale dès le dimanche de Pâques, se sont révélées absurdes, comme le prévoyaient tous les experts. Depuis dimanche dernier, le président américain semble toutefois enfin prendre la crise au sérieux. Cependant, on oublie souvent que dans les pays dont le système de santé est bien moins performant, notamment en Afrique et en Inde, la situation est très difficile à évoluer et devrait continuer à empirer. En Allemagne et en Suisse, l'évolution de la pandémie semble toujours un peu moins agressive, même si aujourd'hui encore, il est beaucoup trop tôt pour l'affirmer avec certitude. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les autorités sanitaires fassent preuve d'une grande retenue dans leurs prévisions quant à l'amélioration de la situation. Dans d'autres pays européens, et notamment en France et en Grande-Bretagne, la situation s'aggrave de jour en jour. On ne sait pas non plus si l'apaisement observé en Asie et notamment en Chine, à Taïwan, au Japon et en Corée du Sud va se confirmer. La façon dont ces pays ont géré la pandémie permet en tout cas aux États européens de tirer de précieuses conclusions concernant certains aspects. Je passe maintenant à la discussion des marchés des actions et des devises. Les marchés des actions se sont quelque peu stabilisés depuis notre dernière conférence téléphonique, notamment grâce aux très vastes mesures de soutien décidées ces dernières semaines et mises en œuvre rapidement par certains États. Dans différents pays, des problèmes techniques ainsi que des obstacles d'ordre juridique et administratif montre toutefois que, malgré la bonne volonté des milieux politiques, un fossé sépare la théorie de la pratique. À l'échelle mondiale, ce sont aujourd'hui des milliers de milliards de dollars qui ont été investis dans l'application de ces mesures et qui contribuent de façon déterminante à empêcher cette crise d'occasionner un désastre économique planétaire. Ces impulsions étatiques représentent environ 3% de la performance économique annuelle mondiale, ce qui est absolument historique. Nous restons très confiants dans le fait que les mesures économiques Doré est déjà prise en Suisse, au sein de l'Union européenne et aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays tels que la Chine et le Japon, permettront de surmonter cette crise également sur les plans économiques. À ce jour, l'indice suisse des actions SMI a chuté d'environ 14% depuis le début de l'année. Dans le même temps, le marché américain des actions a reculé de quelque 23%, celui de l'ensemble de l'Europe de 28% et celui de la Chine de 10%. La situation s'est donc légèrement améliorée par rapport à la semaine dernière lorsque s'est tenue la première conférence téléphonique de cette série. Le franc suisse ne s'est toujours pas envolé, ce qui s'explique en partie par les interventions sur le marché monétaire annoncées par la Banque nationale suisse. Le franc n'a que peu évolué depuis notre dernière conférence téléphonique. Je vais maintenant discuter les répercussions sur l'endettement des États. Il est clair que cette pandémie constitue une véritable catastrophe sur les plans humain et économique et qu'elle ne permettra à personne de s'enrichir. On peut dès lors réfléchir aux conséquences des différentes mesures de soutien sur l'endettement des États qui ne fera qu'augmenter. L'ampleur des investissements réalisés pour financer ces mesures dépend évidemment de nombreux facteurs. De la durée pendant laquelle on devra encore faire face à un état d'urgence sanitaire, du type et de l'étendue des mesures étatiques prises, de la durée et de la gravité de la récession observée dans les pays en question, mais aussi de la capacité du commerce mondial et de l'ensemble des chaînes de fabrication à se rétablir simultanément. Pour l'heure, l'incertitude reste donc considérable. Je souhaiterais malgré tout dresser un scénario de base concernant l'aggravation de l'endettement de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Italie et des États-Unis. Je m'appuie pour cela sur les données et estimations actuellement disponibles grâce à de nombreuses sources que je ne pourrais pas détailler ici. Si les États-Unis ont souvent tiré avantage de la force de leur économie intérieure, celle-ci pourrait à présent se transformer en une épée de Damoclès. Plus que tout autre au monde, le pays est dépendant de sa consommation privée qui représente environ 70% de sa performance économique globale. Or, les mesures de quarantaine dont l'ampleur et la durée se précisent petit à petit, paralyseront une grande partie de l'activité. Un recul du produit interne brut américain de plus de 5% par rapport à 2019 semble donc de plus en plus réaliste. Les programmes fiscaux décidés par le gouvernement, qui représentent quelque 10% du PIB, n'y changeront rien. Il vise surtout à atténuer l'impact considérable de la crise sur les entreprises et le marché du travail, et devront probablement être fortement élargis. Toutes ces mesures aggraveront encore le taux d'endettement des États-Unis, qui devrait augmenter de 15 à 20% pour s'établir à 125% environ du produit interne brut. La situation s'avère bien plus dramatique pour les États économiquement affaiblis, comme c'est le cas de l'Italie. Avec un taux d'endettement représentant plus de 130% du PIB, la situation du pays était très tendue avant même l'arrivée du coronavirus. Et la probable chute du PIB de 7%, voire plus, prévue pour cette année n'arrangera pas les choses. Même si les programmes de soutien de l'économie qu'elle envisage actuellement sont relativement modestes en comparaison avec les États-Unis, son déficit budgétaire devra s'élever à plus de 6% en 2020. Son taux d'endettement augmenterait alors de 15% environ et s'approcherait donc dangereusement de la barre des 150% du PIB. Compte tenu de ce que doit déjà payer l'Italie pour rembourser ses dettes, le pays devra dépenser près de 30 milliards d'euros par an rien que pour s'acquitter des intérêts, ce qui devrait mettre fin à tout espoir de croissance au cours des prochaines années. L'Italie s'apprête donc à faire face à des temps encore plus durs sur le plan économique, dont elle est aujourd'hui totalement dépendante de la décision de la Banque centrale européenne concernant les futurs achats d'emprunts d'État. En revanche, des pays comme l'Allemagne et la Suisse se trouvent dans une situation bien plus favorable en matière d'endettement. Même à l'issue de la mise en œuvre des programmes décidés par les deux États, ils continueront de jouir d'une notation de crédit élevée et donc d'une bonne solvabilité. Ils peuvent se permettre de réaliser des dépenses et d'octroyer des garanties pour atténuer les conséquences de la crise actuelle, et ce même en partant de l'hypothèse qu'ils enregistreront eux aussi une chute de plus de 5% du PIB en 2020. Fin 2019, l'Allemagne présentait un taux d'endettement de 59% environ du PIB et la Suisse de moins de 40%. D'ici 1 à 2 ans, on devrait s'approcher de 70% en Allemagne et de 45% en Suisse. La crise du coronavirus va donc renforcer les inégalités politiques et économiques au sein de l'Union européenne, ce qui devrait nuire à l'Union ainsi qu'à la zone euro et assombrir les perspectives de croissance. Maintenant, je passe à discuter les conséquences sur nos stratégies de placement. Les corrections intervenues sur les marchés mondiaux des actions ont également des répercussions sur nos stratégies de placement. Les pertes indicatives suivantes ont été enregistrées depuis le début de l'année. Je vais discuter les trois stratégies principales. La stratégie de rendement avec un taux en action modeste a perdu à peu près 6,5% à partir du début de l'année. La stratégie équilibrée a perdu à peu près 8,5%. Et la stratégie de croissance a perdu à peu près 13,5%. Donc la situation s'est légèrement améliorée depuis notre dernière conférence téléphonique. Les différences de rendement entre les stratégies de placement classique et durable restent très faibles, comme nous l'avions prévu. Pour obtenir des informations plus précises concernant votre dépôt personnel, n'hésitez pas à vous adresser à votre conseiller ou conseillère. Maintenant, je discute les recommandations d'action de certaines entreprises. Nous n'avons malheureusement pas le temps de discuter en détail des actions de diverses entreprises, mais nous mettons continuellement à jour nos listes de recommandations. Notre équipe, composée de 5 analystes, suit en permanence l'évolution du cours des actions d'environ 550 entreprises et formule des recommandations à ce sujet. Nous avons publié un document de 10 pages proposant des informations sur chacune des actions que nous actualisions sans cesse et au fil de nos analyses. N'hésitez pas à le demander à votre conseiller ou conseillère. Voilà, je passe maintenant à une perspective en matière des stratégies de normalisation. La stratégie de normalisation adoptée par les différents pays européens devra prévoir la mise en place de nombreuses mesures d'accompagnement avant qu'il ne soit possible d'assumer la responsabilité d'un fort assouplissement du confinement. Il s'agira d'une part de garantir la protection des personnes à risque particulièrement exposées et d'autre part, d'exploiter systématiquement toutes les possibilités de réduire significativement le risque d'infection, même après un relatif retour à la normale. Parmi les nombreuses mesures à examiner attentivement figurent les suivantes. L'augmentation du nombre de tests réalisés, la possibilité de reconstituer les chaînes d'infection au moyen des technologies à disposition, l'utilisation de masques et de protection dans les lieux publics ou encore la poursuite du télétravail lorsque cela s'avère pertinent. Le fait de considérer et d'adopter ces mesures constitue un défi de taille pour tous les gouvernements européens. Ces questions devraient gagner en importance au fil des semaines. Il est possible que nous les abordions plus en détail dès notre prochaine conférence téléphonique qui se tiendra le 9 avril. Voilà les conclusions. Nous donc continuerons à suivre de très près la situation sur les marchés financiers et les évolutions relatives à la pandémie. Nous vous déconseillons vivement d'abandonner de façon précipitée la stratégie de placement que vous avez adoptée. Les mesures tactiques, telles que la réduction de la part d'action à une sous-pondération modérée appliquée fin février, de même que les acquisitions sélectives sur des marchés surrendus que nous avons réalisés ces derniers jours, en particulier lundi, nous serons systématiquement et continuellement mis en œuvre dans le cadre de notre stratégie de placement. En outre, nous avons pris à temps toutes les précautions techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir un fonctionnement normal et régulier de nos processus et systèmes, même dans la situation actuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que mes explications vous auront été utiles.